Bonjour à tous, comme d'habitude cette émission vous est proposée grâce au soutien participatif de ses patriotes et aujourd'hui on remercie Michael Coulombez, Clément Géraudy, Cèdre Véter, Vincent Lenoir et Florent Paillard qui contribuent au bon fonctionnement de cette émission. Aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale puisque la captation audio a été faite à partir d'une vidéo qu'on avait tournée un peu à l'arrache, il n'y avait rien de prévu. Donc le son est un petit peu moins bon que le son radio d'habitude, mais je pense que vous pourrez quand même comprendre un petit peu tout ce qui s'est passé et en tout cas, j'espère que vous apprécierez cette émission. Si toi aussi tu veux soutenir l'émission, rendez-vous sur patreon.com/radiobichon. Merci, bon podcast, yeah!
Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot.
Bon, salut les bichons, c'est Laurent Jacquet pour LJVS, j'espère que ça roule. Aujourd'hui, tu vois, je suis avec Anthony. Ça va, Anto ?
Salut tout le monde.
Nickel. Donc, Anthony, c'est le formateur de Rubio Monocôte, c'est ça ?
C'est exactement ça.
Voilà. Alors, moi, j'ai connu Rubio, et je pense qu'il y en a pas mal qui connaissent. J'ai connu Rubio grâce au copain Olivier Verdier. Salut, Olive. Je vous invite à découvrir sa petite chaîne, je vous mettrai un petit lien dans la description. Et en fait, c'est Olivier Verdier, c'est grâce à Olivier aussi que j'ai connu Anthony. Plus le temps qu'il me parlait de son Rubio, ah moi je mets du Rubio de partout, etc. Bon, on s'est contacté avec Anthony et puis il est passé me présenter un peu tout ça et donc je me suis dit bah au lieu qu'il me le présente tout seul dans mon coin et puis que je vous en reparle après, on va faire la petite présentation tous les deux.
Je suis là pour ça.
Et ben voilà, comme ça vous saurez tout. Allez, c'est parti.
Fabricants de produits de finition de décoration pour les bois,
okay.
Qui ont la particularité de ne s'appliquer qu'en une seule couche.
D'accord.
Ça, c'est le gros avantage. En fait, ce sont des produits qui sont en base d'huile végétale, d'huile de lin.
D'accord.
Mais qui ont été travaillés et créés par des chimistes au départ.
D'accord.
Par contre, en modifiant la molécule de l'huile de lin, ils se sont rendus compte que le produit venait se fixer et se lier par une liaison moléculaire à la cellulose du bois. Donc, à l'essentiel de sa molécule. Et dès qu'on va voir cette interaction entre les deux, cette fameuse liaison moléculaire, le bois sera totalement saturé, protégé, hydrofuge.
Exactement.
On imperméabilise le support grâce à cette solution de finition.
Donc, alors, en gros, c'est un produit, pour résumer. Donc, la marque, c'est Rubio Monocôte.
Oui.
D'abord, on peut vous trouver où ?
Alors, on est présent dans chez beaucoup de distributeurs.
D'accord, distributeurs professionnels, GSB aussi.
GSB, pour l'instant, on travaille essentiellement en réseau de distribution pro.
D'accord, vous vendez sur Internet ?
Alors, il existe des revendeurs qui vendent sur Internet.
D'accord.
Et pour, effectivement, les particuliers, il y a un site de vente en ligne.
D'accord, très bien. Donc, on essaiera de mettre tous les liens dans la description pour tous ceux qui s'intéressent, parce que c'est important.
Exactement.
Parce que là, on s'adresse aux professionnels, bien sûr, mais on s'adresse aussi aux particuliers et aux bricoleurs avertis, à toute la petite communauté des bichons. Donc, produits de finition, produits de traitement ?
Non.
Non.
On va pas être insecticide, fongicide, etc.
D'accord, ok.
On laisse les bestioles tranquilles. Alors, c'est très polyvalent, applicable de la même façon sur n'importe quelle essence de bois.
D'accord.
Et dérivé du bois.
D'accord.
On travaille beaucoup aussi en agencement sur du MDF.
Valchromate.
Valchromate.
Ah, parce que ça, c'est pareil. Valchromate, Olivier nous emmène pleine tête, mais je pense que ça doit être bien.
Exactement.
J'ai vu qu'il y avait Samuel Mamias, là aussi, un autre copain youtubeur, qui avait essayé aussi le Valchromate. J'ai encore pas essayé. Dès que j'aurai mes petites machines dans l'atelier, on testera ça. Donc, MDF, bois dérivé, intérieur-extérieur,
pour tout ce qui est notre cœur de métier au départ, c'est le parquet.
D'accord.
Bien sûr, parquet, escalier, meubles.
D'accord.
En intérieur et en extérieur pour les terrasses en bois, les débardages, les menuiseries.
D'accord.
Il n'y a aucune limite.
Je pourrais mettre ça sur mes nouvelles fenêtres.
Exactement.
T'as vu ? En eucalyptus.
Ouais.
Bon, bah,
d'ailleurs, c'est un super bois pour nous.
C'est vrai ?
Oui. Parce que c'est un bois qui est très dur, très dense, et quelque part, plus le bois est dur et dense, et meilleur sera la tenue de produits de finition aussi.
Ok. Les essences de bois, on a vu que c'était compatible avec tout.
Oui.
Peut-être la préparation, qu'est-ce qu'il faut avant déjà d'en venir au produit ?
Alors, ce qui est très important, c'est que le support soit brut.
D'accord.
Un ancien produit de finition.
Ok.
Donc, pour les gens qui...
Vas-y, je t'en prie.
Pour les gens qui n'aiment pas penser...
Pour les feignants du ponçage, c'est pas le bon produit.
Il faut, comme tout produit de finition, ce qui est très très important, c'est la qualité de la préparation du support. Il faut que le support soit bien poncé, d'une façon uniforme, surtout en intérieur, quand on va faire du mobilier, quand on va faire de l'agencement. La préparation de support et le ponçage, c'est 80% de la finition. Si c'est mal poncé, ce sera toujours mal fini. Donc ce qui est important, c'est que le support, effectivement, soit brut, bien poncé, puisque notre produit de finition va se fixer et se lier à la molécule de bois, à la cellulose, cette molécule de cellulose comprise dans le support.
Ok. T'as un bois brut qui sort de la raboteuse, oui. D'accord. 80, 100, 120, tu descends jusqu'à combien?
Toujours un ponçage progressif, bien sûr.
On est d'accord?
Jamais sauter de grain.
Faut pas passer de 80 à 240, ça exactement. Va faire du...
Toujours un ponçage progressif pour avoir la qualité de préparation de support, sortir les micro-rayures, etc. Donc ça c'est très important. Après, on va poncer au grain de ponçage en fonction de ce qu'on souhaite.
D'accord.
Faire. Généralement, quand on va faire du parquet, encore une fois, notre cœur de métier, on va rarement aller plus fin que le 120. Mmh. Il ne faut pas aller plus fin que le 120, tout simplement pour quand même avoir une fibre du bois relativement ouverte.
Ouais, parce qu'après, ce que j'allais dire, on va vraiment
rester trop lustré. Toujours pour tout le système de finition, que ce soit rubis ou autre, l'ouverture de la fibre du support est importante, beaucoup pour l'extérieur, notamment pour la qualité et la durabilité d'un produit de finition dans le temps. Ça, c'est très très important. Il faut rarement lustrer le support. Le produit doit toujours avoir un minimum d'accroche. Notre produit a cette vocation de rentrer et pénétrer dans le support. Donc, il faut effectivement avoir un minimum d'ouverture du bois pour que le produit se fixe correctement.
Avec les grammages nécessaires aussi. Donc, alors 120 à peu près,
120
extérieur
sur du sol, 120 sur du parquet, sur l'escalier, en mobilier,
tout ce qui est menuiserie après les vis, et menuiserie un peu plus fine et bénisserie, là par contre il faut monter, on peut aller plus monter du 120.
On peut aller plus fin effectivement quand c'est des surfaces qui sont moins sollicitées aussi. Après, ce qu'il ne faut pas trop non plus, c'est de trop glacer la surface. Sinon, il peut y avoir un phénomène qui se passe techniquement, c'est un phénomène de crayonnage. Ça veut dire que si le support est très glacé,
d'accord,
moindre petit impact se voit plus que si on est resté sur un grain plus gros.
D'accord. Ok. Donc on a fait le ponçage.
On a fait le ponçage.
On dépoussière à bloc.
Oui, ça c'est très très important. Le dépoussiérage de la surface. Notre produit de finition se fixe et se lie à la molécule de bois, la cellulose.
D'accord.
Donc ce qui est très très important, c'est que le support soit exempt au maximum de poussière.
Okay.
Nous on préconise, quand on va travailler notamment sur chantier, le passage d'une microfibre imbibée, d'un produit qui s'appelle préparateur intérieur.
D'accord.
Qui nous permet en fin de compte de coller la poussière. Parce que malheureusement, quand on vient de poncer un parquet, le meilleur aspirateur du monde ne permet pas de retirer toutes les poussières.
Donc un petit peu comme nous on fait par exemple quand on prépare quelque chose qui n'a rien à voir, mais quand on prépare un mur avant peinture, ouais, on va le poncer avec bien sûr une aspiration sur le système de ponçage. Ouais. Ensuite, on va aspirer le mur et ensuite on va prendre une microfibre sur un balai, un Swiffer pour pas dire marque. On s'en fout, on ne marie personne et on va passer avec un légèrement humide. D'accord, et là on va voir, de toute façon on voit clairement quand on passe une pâte mouille.
C'est sur le support,
c'est exactement.
Ça ressort nickel, et puis là on va voir réellement les petites micro-poussières se coller. En fin de compte, un chiffon blanc comme ça, passé sur la surface, va ressortir légèrement jaune.
D'accord.
C'est les micro-poussières résiduelles qu'il y a dans le bois qu'il faut effectivement sortir.
Okay.
C'est important que le support soit bien poncé, bien nettoyé, bien propre avant d'appliquer le produit de finition. Là, effectivement, on va être en qualité d'application intérieure ou atelier. Et puis après, on va avoir, nous, les solutions d'application quand on est sur chantier pour de la terrasse ou du bardage déjà posé. Un bois qui aurait déjà un petit peu pris les UV, qui serait déjà un peu grisé, avec des fois des petites impuretés de surface, des fois des moisissures de surface. Là, on a un shampoing de nettoyage avant traitement.
D'accord, ok.
À passer comme un shampoing, on mouille, on frotte, on rince, on frotte au balai brosse, on frotte avec des outils adaptés comme des monobrosses par exemple.
Donc ça, c'est plutôt vraiment le sol, l'extérieur.
Déjà posé.
D'accord, ok. Donc une fois que la préparation elle est faite, qu'on a passé la microfibre, que le support est sec, que tout est impeccable, qu'on a brossé ce qu'on avait à brosser si on était en extérieur et que c'était trop horrible, trop vieux, enfin bref, on a tout bien rénové.
Ouais. On en arrive à ce moment-là, donc, eh bien, avant de l'application, je dirais la sélection du produit.
Parce que
est-ce que tu as, du coup, différents produits ou tu n'as qu'un produit pour tout faire?
On a
un anneau pour les rassembler tous.
On a un anneau.
Oh, voilà.
On a un seul produit,
d'accord,
décliné dans différents couleurs.
Ok.
Notre technologie, c'est l'huile monorouge liaison moléculaire.
D'accord. Donc c'est bien une huile. Hein.
C'est un produit qui est à base d'huile végétale, d'huile de lin.
D'accord, mais je veux dire, c'est pas, on n'est pas dans du vernis, dans du saturateur, dans de la lasure, dans... c'est classé comme une huile.
Oui.
D'accord.
Mais on n'est pas. Alors, on va avoir esthétiquement l'aspect d'un saturateur.
D'accord.
Sans avoir la technologie d'un saturateur.
D'accord.
Notre produit, en fait, il existe traditionnellement deux types de finitions sur le marché.
Ok.
Soit des finitions filmogènes, les peintures, les vernis, les lasures,
qui ont le gros avantage de très bien imperméabiliser le bois.
Traditionnel, donc les produits filmogènes, donc qui déposent une pellicule de surface.
Ok.
Pour imperméabiliser le support, qui ont quand même pour inconvénient que s'il y a une rayure dans un produit plastifiant, bah, malheureusement, à part tout repenser, tout refaire, l'entretien local est quand même compliqué.
Ouais.
Et après, il y a les saturateurs.
Ouais.
Qui, eux, bah, gorgent le bois, qui imperméabilisent le bois par ce fait-là.
L'inconvénient, c'est que ça demande un entretien régulier. Ouais, en fait, ça, le saturateur, ça demande à revenir dessus tous les ans, tous les 2-3 ans, ou tous les 5-6, en fonction de la qualité du saturateur.
C'est exactement ça. Après, la solution Rubio, c'est pas un mix des deux. On va être apparenté dans l'aspect un saturateur, mais sauf qu'on a cette technologie de liaison moléculaire avec la cellulose du bois. J'ai bien toujours sur ma fameuse technologie qui, grâce à ça, en fin de compte, notre produit ne se délave pas longtemps.
Okay.
Notre produit reste fixé, lié au bois, et la seule chose qui l'abîme dans le temps, c'est l'abrasion de subir le support. En gros, sur un parquet, par exemple, ça va être un trafic intense.
D'accord.
Et on va adapter aussi les protocoles d'entretien en fonction de l'exposition, en fonction de la sollicitation de la surface.
Okay.
Un parquet de chambre à coucher demandera quasi aucun entretien. Un parquet de restaurant, effectivement, là, on va adapter.
C'est pas la même.
C'est pas la même.
Okay.
Pareil sur l'extérieur.
Donc, quand tu dis adapter, c'est pas mettre le même produit ou mettre des compléments ou...
C'est mettre le même produit,
ouais,
mais avec des fréquences d'entretien.
D'accord,
tout simplement. Okay. En fait, nous, on ne va rehuiler la surface, contrairement à des saturateurs classiques, on ne va rehuiler que si j'ai de l'abrasement. Donc, si j'ai de l'usure, si j'ai aucune usure, en fait, il n'y a aucun intérêt de rehuiler parce que le produit est monocouche.
Très
donc
bien.
Il ne se fixera pas. Le gros avantage de ça, et notamment sur l'extérieur par exemple, pour des gens qui font du barrage par exemple,
ouais,
de la terrasse, on ne vend pas notre solution Rubio comme une solution magique et qui tient 150 ans.
Ouais. C'est dommage parce que tu fais un carton.
On ne transforme malheureusement pas encore le bois en carrelage.
Ouais, c'est sûr.
Mais par contre, le gros avantage de notre système de finition, notamment par exemple sur l'extérieur barrage, c'est que le produit à l'entretien ne se fixera que localement là où il en manque. Donc ça nous permet de retrouver la couleur initiale systématiquement. Alors, petite astuce aussi, en extérieur, on ne fait pas de produit transparent. Tous nos produits sont pigmentés. Je montrerai après sur une lame de,
okay,
sur une lame de Douglas pour garder en fait l'aspect bois brut. Parce que même si on est pigmenté, on sait faire de l'aspect bois brut en pigmentant le support de sa couleur naturelle d'origine.
D'accord.
On triche un petit peu.
Ouais, mais bon, c'est le résultat qui compte.
Hein. C'est exactement ça. Et ce pigment-là stabilise la couleur du support dans le temps. En fait, c'est le pigment qui est stable à la lumière dans le temps.
Ouais.
Le bois lui-même, lui, se décolore toujours un petit peu.
Ok. Donc alors, on a vu. Les différences de produits, on a vu le ponçage, on a vu la préparation. On peut peut-être parler quoi des, avant l'application même des coloris ou tu veux rajouter quelque chose?
Il existe. On a en intérieur, on a essentiellement deux gammes. On a une gamme spécialement adaptée au parquet. Qui dit parquet, dit escalier, dit meuble. Hein,
d'accord.
Très, très polyvalent. Et on a une gamme qui va être plus dédiée à l'agencement. On a une gamme qui s'appelle Oil plus 2C, qui est la gamme traditionnelle parquet.
D'accord.
Et une gamme qui s'appelle Easy Deco, où on aura des coloris même adaptés à certains panneaux en agencement, comme du médium. Et on a développé, d'accord, les couleurs Valchromate.
Ok. Donc, Easy Deco, ouais. Easy Deco, donc plutôt
plutôt petite menuiserie agencement et l'autre, enfin Zydeco plutôt ébénisterie et agencement.
Ouais, après tous les produits sont polyvalents. Quelqu'un veut travailler essentiellement en Zydeco, il travaillera que en Zydeco. Après, la différence essentielle, c'est les pigments qu'on utilise dans le produit. Donc, les produits de la gamme traditionnelle sont plus travaillés sur du chêne, qui donneront des résultats et des couleurs optimales sur le chêne et sur d'autres essences de bois, bien entendu. Après, c'est des tests et des essais à faire, tout simplement. Et après, on a développé certaines couleurs plus associées à certaines matières.
D'accord.
Comme le médium.
Ok. De toute façon, ce qui est important de savoir, c'est que si on a un doute ou quoi que ce soit, moi, je laisserai les coordonnées en dessous et puis les gens peuvent vous contacter et puis vous les conseiller, quoi.
Nous, on a toujours des petites astuces. Des gens, on leur demande quel type d'aspect ils recherchent. Si c'est un aspect bois brut sur du bois, on va les conseiller. Si c'est un aspect cérusé blanc, si c'est un aspect grisé, un aspect lumineux, on peut faire tout ce qu'on veut. On joue juste sur la pigmentation du produit, tout simplement. Parce que concrètement, on a un produit, une technologie développée dans plein de couleurs.
Ouais,
on a une gamme spécialement adaptée pour l'extérieur avec une pigmentation adaptée pour la durabilité optimale aux yeux.
On a vu tout ça. Si on en venait au fait.
Ouais. Alors, concrètement, là on a des petites fioles d'échantillons testeurs.
D'accord.
Qui nous permet en fin de compte de faire des démonstrations, mais qui permet aussi aux gens de pouvoir tester directement sur leur morceau de bois.
D'accord.
Ce qui est important de savoir, c'est que notre produit n'est pas plastifiant, n'est pas de la peinture. Donc l'aspect final dépend de plusieurs facteurs. Bien entendu, de l'essence de bois sur laquelle on va travailler. On n'aura pas le même aspect sur un morceau de chêne que sur un morceau de sapin.
Ouais.
Ça c'est sûr.
Que sur un merisier ou un noyer.
Exactement. Et ça dépend aussi du ponçage. Si on ponce plus fin, on va être plus clair. Si on ponce plus gros, on va avoir un aspect plus marqué.
D'accord.
Parce que le pigment accrochera plus.
D'accord.
Donc on préconise toujours quand même de faire un petit test.
Ouais, prendre une chute et puis.
Exactement.
Mais ça, je pense qu'après, quand on a l'habitude un peu en menuiserie ou en ébénisterie, ou on le fait un peu tout le temps. Hein.
Ouais, puis il y a toujours les mêmes couleurs qui ressortent.
Ah ouais, ouais. Moi, personnellement, quand j'ai passé une semaine et demie à faire un meuble, j'ouvre pas le pot et je le tartine pas comme ça. Hein. Je fais un essai avant.
Exactement. Sachant que le gros avantage de notre système de finition, c'est que le rendu final est instantané.
D'accord. Ah oui, donc. Ok, donc il n'y a pas d'histoire, ça s'éclaircit au séchage, ça se teinte. Non, ok, nickel. Alors ce que je vais faire, les pichons, vous m'en voulez pas, moi je vous regarderai un petit peu moins. Je vais plus vous filmer parce que là l'autre caméra elle est en train de charger, donc des fois je vous fais des doubles écrans, mais là j'ai que celle-là. Donc je vais plus vous filmer Anthony et puis ce qu'il va faire, puis moi je serai derrière, je poserai un peu les questions aussi quand même.
Bah, pour montrer la technologie, je vais prendre une couleur un peu foncée,
d'accord,
qui va me permettre de réellement voir le principe et la technologie du produit. Si je montre un aspect bois brut, on verra pas réellement le produit, l'interaction qu'il a.
Mais si tu montais un aspect bois brut, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on peut avoir, même avec des petits pigments, on peut avoir quand même l'effet incolore.
Oui.
D'accord. Ça, c'est quand même important parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent des fois de l'incolore.
Oui. Alors, pas confondre l'aspect bois brut et l'huile transparente, par exemple, parce qu'une huile transparente aura toujours pour effet de donner un côté un peu mouillé, hein, un côté un peu miel. Pour contrecarrer ces côtés mouillés miel, en fait, on va prendre le pigment le plus adapté au bois, le plus proche de la nature du bois,
d'accord,
pour faire du ton sur ton et préserver l'aspect bois brut. On a par exemple des coloris chêne brut, des coloris invisibles,
ouais.
On a des légers blanchis, coloris qui s'appelle soupçon blanc, quand on va appliquer par exemple sur des bois type résineux, donc je freine qui est très blanc, pour vraiment garder l'aspect bois brut. Alors on ne fait pas de gros conditionnements.
D'accord.
Tout simplement, au-delà de la technologie, on n'en a pas parlé encore, on a un fort rapport écologique sur notre produit.
D'accord.
C'est un produit qui ne comporte pas d'eau ou de solvants à base d'eau, parce que les produits à base d'eau, c'est pas de l'eau du robinet qui sont dedans, ce sont des solvants en phase aqueuse. L'avantage de ne pas avoir d'eau dans le produit, ça nous permet en fin de compte de ne pas du tout relever la fibre du bois.
D'accord.
Préserver en fin de compte le toucher soyeux du ponçage initial. On ne modifiera pas l'aspect du ponçage. Donc il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas de solvant non plus. Donc aucune évaporation, aucune émanation de produits nocifs. Contrairement à des huiles de lin traditionnelles, on n'a pas besoin de ce qu'on appelle de cicatif
pour
que le produit sèche.
Bon, moi l'huile de lin j'adore, mais alors ce qui est infernal, c'est que ça met 4 jours à sécher, quoi.
C'est ça.
Et là, donc, on verra. Et là, tu vas voir, tu vas nous faire voir.
C'est pour ça qu'on le montre aussi.
Donc, le conditionnement standard.
Alors, on a des petits conditionnements aussi.
En 350 ml, 1,3 litres. Après, on a des conditionnements plus importants. On fera jamais du 20 litres. Hein. Tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle je parlais de notre rapport écologique aussi.
D'accord.
C'est que le produit n'est pas dilué. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de solvant. Donc, on est ce qu'on appelle 100% extrait sec. En fait, l'extrait sec, c'est la matière sèche utile qui vient réellement rester sur le bois.
Ok.
Et nous, il n'y a rien qui s'évapore. Donc, tout ce qu'on met sert à la protection du bois.
Ok.
Du coup, avec très peu de matière, on va faire de grandes surfaces.
D'accord.
Nous, mon parquet, avec 1 litre, on va faire à peu près 40 mètres carrés.
Ah ouais, d'accord.
Donc, c'est des rendements réels. Bien entendu, ça va dépendre aussi de la structure du bois.
En monocouche.
En monocouche.
Qu'une couche, il y a toujours une couche.
On ne peut mettre qu'une seule couche de notre produit. C'est...
Très bien.
C'est... Voilà, c'est simple.
D'accord.
Le bois ne pourra pas absorber une deuxième couche. Donc,
D'accord. Bon, bah, ça a l'air prometteur, ça. Donc, tu m'as dit format 350 ml, 1,3 litre, et entre les deux,
quelque chose 3 litres et demi.
Non, 3 litres et demi.
Oui.
Ok, donc 350, ça correspond à une bouteille de sirop pour la poudre.
Ouais, c'est ça, c'est
voilà.
Pour faire à peu près 12-15 mètres carrés.
D'accord, donc quelqu'un qui a un meuble à faire, il achète ça, c'est suffisant.
Exactement.
1,3 litre, donc on a vu en 30 et 40 mètres carrés, plus ou moins en fonction bon, de différents facteurs. Et après, 3 litres et quelques, et ben 100 mètres carrés, quoi.
Ouais,
peut-être un peu moins, 80 mètres carrés.
On part du principe qu'à à peu près 40 mètres carrés au litre. Hein.
D'accord, ok.
Même, on est plus sur 120 mètres carrés.
D'accord, ok.
Les conditionnements sont un peu spécifiques, 1,3. Tout
ouais.
Simplement parce que dans notre gamme parquet, le produit est systématiquement vendu en bicomposant.
D'accord.
Quand on va faire les essais comme ça, on va l'appliquer prêt à l'emploi.
D'accord.
Ça changera rien dans l'aspect, ça changera rien dans le séchage au toucher.
D'accord.
On va simplement avec l'accélérateur de séchage, qui n'est pas un durcisseur comme on peut l'entendre, qui est un produit qui va nous permettre à la fois d'augmenter la résistance à terme,
d'accord,
et aussi d'accélérer le séchage à cœur.
D'accord.
Quand on est sur un parquet, c'est important de rajouter ce fameux.
D'accord. Pour retrouver aussi le passage rapidement.
Exactement. Pour pouvoir remettre en circulation très rapidement.
D'accord.
Grâce à ça, en fait, même sans ventilation, puisque notre produit est ce qu'on appelle un séchage oxydatif, donc c'est un séchage avec la rotation d'air.
D'accord.
Quand on n'a pas de rotation d'air, comme dans un appartement, et qu'on va fermer la porte, il n'y a plus de rotation d'air. Mais grâce à l'accélérateur, on va continuer à sécher.
Ok, alors par contre, ça c'est uniquement du coup pour la gamme parquet. Enfin, quand on fait un parquet, parce que par exemple, moi je repense à Olivier,
ouais.
Je ne l'ai jamais vu faire du bicomposant dans ses vidéos. Il ouvre son bidon et il traite et termine.
Ça dépend de ce qu'on va faire. Sur des surfaces moins sollicitées, après ça nous permet aussi des fois de gagner du temps pour les gens qui utilisent le produit en atelier, pour permettre d'enculer ou d'emballer les pièces plus rapidement.
D'accord.
Le gros avantage de cet accélérateur nous permet en fin de compte, après quelques heures après l'application, de pouvoir empiler, emballer et de pouvoir livrer directement.
Et par
contre, le séchage à cœur sera plusieurs jours après.
D'accord. Et par contre, l'accélérateur, j'allais dire durcissant, mais l'accélérateur est compatible avec tout.
Oui,
il est complètement transparent.
Oui.
Donc ça veut dire qu'on peut avoir 10 petits pots de 350 ml de 25 tonnes différents et un seul de durcisseur et on va faire nos mélanges en fonction de ce qu'on veut.
D'accord. Il est valable pour toutes les gammes, intérieures ou extérieures.
D'accord.
On va simplement adapter la quantité d'accélérateur en fonction des gammes. Dans la gamme extérieure, on peut en mettre aussi.
D'accord.
On n'en met pas systématiquement, surtout quand on va faire de la rénovation en extérieur, quand il fait très chaud, etc. Parce qu'il y a une certaine prise quand même et que le produit à terme se fige.
Ok.
Durée de vie du mélange.
D'accord.
L'avantage, c'est qu'on va avoir un séchage à cœur plus accéléré, une durabilité, une dureté un petit peu plus importante, mais surtout, malheureusement, il y a une durée de vie du mélange.
Ok, mais enfin bon, durée de vie du mélange, en bicomposant, on est d'accord, on a vu que c'était pas systématique de faire du bicomposant.
Exactement, le produit peut être appliqué avec ou sans.
D'accord.
Après, ça dépend de ce qu'on fait.
D'accord, mais ça change...
Un parquet, un escalier, c'est systématique. Hein.
Voilà, mais par contre, un parquet, un escalier, c'est systématique, mais par contre, on est d'accord, le bicomposant ne rajoute rien au produit, si ce n'est de la rapidité de séchage, à cœur.
Oui.
On est d'accord, mais sinon, il ne sera pas qu'on ait fait un bout de bois avec du bicomposant ou sans, ou en composant, on aura le même aspect, on aura la même durabilité.
On augmente un peu la durabilité.
On aura la même résistance.
on augmentera la résistance et surtout l'imperméabilité aussi.
Avec le, le deuxième produit, l'accélérateur.
C'est un mélange à faire, hein, donc ça ne change rien dans la mise en œuvre.
D'accord.
C'est un mélange qu'il faut faire.
D'accord.
L'application se fera de la même façon.
Donc c'est quoi? C'est des proportions? C'est 30-70, 50-50?
Sur la gamme parquet, c'est juste 80%.
D'accord.
Sur la gamme extérieure, 10%.
D'accord. Donc on prend un vermesureur ou une balance ou machin et on en rajoute 10%. Quoi. Comme quand on fait de la résine, comme quand on fait.
La seule chose, c'est que contrairement à beaucoup de produits, si on en met 20% ou 18%, ça change pas grand chose.
D'accord, oui, c'est ok, j'ai bien compris. Ouais, c'est pas que par exemple une certaine résine époxy où faut être quasi au gramme près, parce que sur certains produits, on peut avoir des effets inverses, que le produit ne sèche plus si on en met trop ou si on en met pas assez, ou que le produit réagisse différemment. Là, peu importe. Ça ne changera rien si on en met un peu plus, un peu moins, à quelques grammes près. Ok, très bien. Bon, maintenant on va passer dans le vif du sujet parce que tout ça c'est bien marrant, mais j'aimerais bien voir un peu.
On n'a toujours pas appliqué sur nous.
Allez, on va y attaquer. Donc là, c'est sur. C'est quoi, du frêne?
Ouais, alors on peut appliquer de la même façon sur toutes les essences de bois.
Ouais.
Là, j'avais que ça dans la voiture.
Ouais, non, mais c'est très bien.
Sinon, des petites plaquettes de chêne.
D'accord.
Mais je me les garde à la limite pour montrer autre chose.
Ouais, ok, pas de problème.
Donc, sur le principe d'application, encore une fois, bien préparé, bien poncé, bien dépoussiéré. Derrière.
Donc là, tu verses le produit directement
sur. On peut verser le produit directement sur le bois.
D'accord.
L'avantage de ce produit, c'est qu'on risque pas de faire de tâches.
Ah ouais, donc il va, le temps qu'on aille chercher le pinceau ou le truc pour l'essuyer, il n'aura pas teinté plus le bois à cet endroit que là.
D'accord. C'est un réel monocouche. Après, pour faire la démonstration, j'utilise simplement un petit bout de mousse, un bout d'éponge.
D'accord.
Pour montrer la mise en œuvre.
D'accord.
Bien entendu, on va adapter la méthode de mise en œuvre en fonction de la taille de surface.
D'accord.
Là, on a des astuces.
Ok.
En termes d'application, c'est le produit le plus simple du monde. On peut aller vite, on profile, on peut faire des ronds, on peut faire tout ce qu'on veut.
D'accord.
Je viens simplement étaler le produit sur ma surface.
Donc, il vaut mieux y faire quand même avec une petite mousse ou ce qu'on appelle nous un tampon.
De l'éponge.
De l'éponge plutôt que d'y faire avec un pinceau. Alors, ou un petit rouleau, la cœur ou.
Petite surface, de l'éponge à peindre.
D'accord, ok. De l'éponge, toute simple. Très bien,
tout simplement. Pourquoi de l'éponge est mieux que le pinceau? C'est que le pinceau peut nous déposer trop de matière.
Mmh.
Et du coup, on va gâcher du produit parce qu'il faudra toujours essuyer l'excédent éventuel.
D'accord.
Et on a le temps de travailler.
Ouais.
La liaison avec le bois, ça se fait en quelques secondes.
D'accord.
Il ne faut pas travailler trop vite non plus. On va laisser un petit peu imprégner.
Donc là, tu l'as étalé.
Je l'ai étalé.
Tu n'as pas regardé, tu t'en fous qu'il y a des traces dans un sens, dans l'autre, tout.
On s'en fout.
D'accord.
La seule chose, derrière, en fait, toutes ces traces,
ouais,
c'est de l'excédent de produit.
D'accord.
Donc, tout simplement, quand je viens essuyer.
Donc, après, tu l'essuies avec un chiffon standard.
Avec un chiffon.
D'accord.
L'objectif, c'est de travailler avec le minimum de chiffon. Si j'ai
D'accord.
plus de quantité, je vais simplement tirer le produit plus loin.
D'accord.
En fait, schématiquement, c'est comme si on faisait du cirage de chaussures.
D'accord.
On en met, on essuie.
Ah ouais, là, ça, on essuie.
Et en fait, le seul mot d'ordre de ce produit, il n'y en a qu'un. C'est une fois qu'on a fini d'essuyer, il faut être sec au toucher instantanément.
Et là, t'es sec au toucher, là.
Et là, je suis sec au toucher. Voilà. Sur ton contrôle.
Putain, ça me dégoûte. Putain, c'est génial.
Bon, c'est le seul mot d'ordre de ce produit, il faut appliquer celui-là. Si on laisse de l'excédent, il va, si on le laisse 2 heures, 3 heures, 4 heures, l'excédent, il va commencer à sécher en surface et ça va coller.
Putain, c'est génial.
Le protocole, c'est ça. C'est simplement d'appliquer et d'essuyer. Tout simplement.
Ok, bah écoute,
on adaptera toujours la méthode de mise en œuvre en fonction de la taille de surface.
Ok.
J'indiquerai aussi les méthodes d'application.
Ok.
Il existe des vidéos aussi sur YouTube. Je vais vous mettre un petit.
Oui, tu as bien raison.
On a...
Que vous avez une chaîne YouTube aussi.
Le Bio Monoco de France.
Bien.
Voilà, tout simplement. On a des vidéos tutoriels.
Et alors attends, parce que là. Là, c'est bon, c'est fini.
Là, c'est fini.
Là, j'avais mon meuble chez ma cliente et c'est bon.
Oui.
Et là, le soir, elle peut poser un apron. Si c'est une table basse, elle peut mettre un verre d'eau. Elle peut. C'est bon. Oui. J'ai pas besoin de lui dire attendez. Faut que je lui dise quand même. Bah, attendez le lendemain quand même pour lui mettre un coup de.
Avec l'accélérateur de séchage, encore une fois, la durabilité, la dureté optimale sera en 36 heures.
D'accord.
Ce qui est important quand même sur les premiers jours d'exposition,
ouais, faire un minimum attention.
D'accord. Éviter de trop mouiller la surface avant 5 heures.
Et après, nettoyage, bon, bah, comme un truc standard, faut pas y aller avec le gratte-gratte, le dos d'une éponge, pas créer d'abrasion.
Voilà, pas créer d'abrasion, ça c'est sûr.
Mais...
après, la durabilité.
Ah, qu'on voit en coupe, c'est vachement rentré. Hein.
La durabilité dépend aussi de l'essence de bois sur laquelle on travaille.
Ouais.
Forcément, quand on va travailler sur un morceau de chêne, on marquera moins vite à l'impact, par exemple, que sur du sapin. Mais peu importe le système de finition qu'on choisit, ce sera toujours le cas.
Mais là, par contre, donc là, l'avantage, demain, j'ai ma cliente ou mon client qui m'appelle, qui me dit « Oh, on a un souci, on a eu une rayure au milieu.
Ouais. »
Tu reprends du produit.
Alors, je vais te montrer... Et je vais finir ma petite... c'est pour ça que okay. Je me suis arrêté à cet endroit.
D'accord.
C'est pour te montrer aussi cette particularité-là.
Ok.
En fait, sur le principe. Du coup, là, en discutant un petit peu,
ouais.
Que je le fasse tout de suite ou que je le fasse dans deux heures, ça ne changera rien.
D'accord.
Simplement, j'ai encore un peu de produit sur mon éponge.
Ouais.
Je vais simplement finir mon application.
Même si l'autre côté est sèche et tout, ça n'a pas d'incidence.
Ça n'a pas d'incidence. Là, j'ai cette petite démarcation.
Ouais.
Avec un système traditionnel, on va garder cette démarcation.
Ouais.
Avec Rubio, quand je viens essuyer,
ça me dégoûte.
Voilà.
Putain, c'est génial.
En fait, il n'y a pas de risque de chevauchement ou de surépaisseur.
D'accord. Donc en fait, le Rubio ne va pas se recoller, il se refixer sur la partie qui a déjà été traitée.
C'est ça. L'avantage, du coup, c'est qu'il n'y a pas de risque d'avoir des différences de couleur.
Et peu importe si vous l'avez fait dans deux heures, c'est pareil.
C'est pareil.
Donc alors, attends, je t'explique pour bien comprendre, parce que c'est important, parce que moi, je trouve génial. Je connaissais parce qu'on lui dit à chaque fois que je le vois, essaye. Donc bon, là, je suis content que tu sois là, mais je veux dire, je fais une petite console, j'essaie de me faire un joli meuble.
Ouais.
Je finis le ponçage, dépoussiérage, 11h30, je suis content, j'ai passé ma petite microfibre, impec. J'ouvre mon bidon de Rubio, je commence à traiter ma console.
Ouais.
En plein milieu de la console, ma femme se met au balcon, chérie, c'est prêt. Je laisse tout comme ça, je me casse, je vais casser la croûte, je reviens une heure et demie après, je reprends mon truc, je continue.
Avant de partir, bien essuyer le surplus.
Mais si j'ai essuyé le surplus,
exactement.
Je peux que je continue ma console une heure après.
On peut aller prendre l'apéro, on peut faire un barbecue et continuer après.
Oh ben tu vois, ça va changer la vie, ça. Parce qu'alors ça, t'es pas prêt de faire ça quand tu fais une finition traditionnelle, hein.
Exactement. Et c'est ça le gros intérêt de notre système de finition.
Et alors j'ai quand même une question. Je sais pas si ce sera pas une question piège.
Je prends toutes les questions.
Tu prends toutes les questions.
Aucune question.
On censure rien.
On censure rien.
D'accord. T'es prêt?
Je suis prêt.
Là, j'amène ça chez ma cliente. Elle me dit « Oh, c'est magnifique, c'est joli, vous avez bien bossé, etc. Je suis ravi. Par contre, j'aurais vraiment voulu avoir une finition vernie. Est-ce que là, je peux prendre mon pot de vernis en vernir par-dessus? Non ?
C'est dangereux.
Ou est-ce qu'il aurait mieux valu que je lui dise à ce moment-là « Ah non, ma petite dame, ça fallait me le dire avant. »
Oui.
Voilà. Comme je veux dire, c'est pas des questions pièges, c'est simplement pour tous ceux qui nous écoutent, c'est pas une teinte, quoi.
C'est pas une teinte.
C'est pas fait pour recevoir après un autre produit non compatible.
C'est un produit qui imperméabilise la surface.
D'accord.
Souvent, sans rentrer dans le détail des vernis, puisque...
D'accord.
Un fabricant de vernis, mais un vernis pour qu'il soit efficace et qu'il ait une durabilité optimale, il faut qu'il ait un maximum d'accroche.
D'accord.
Vu qu'on limite l'accroche de ce vernis, il y a des risques que ça marche pas.
D'accord.
Il y a des risques que ça marche très bien. Hein.
Non, mais ce que je veux dire, on aurait pu dire, tu aurais pu par exemple me dire, oh si t'attends une heure ou deux que ce soit bien sec, et puis après tes graines légères.
Non, même pas, c'est dangereux.
Vaut mieux pas, c'est dangereux quand même.
D'accord. Certains vernis qui vont fonctionner, d'autres qui vont pas fonctionner.
Ça va bien lier.
C'est de l'huile, donc on a un corps un peu gras quand même.
Je comprends.
S'il y a un peu d'excédent d'huile, est-ce que le vernis va pas interagir ou avoir une réaction qu'on ne sait pas, un friseur,
okay.
Etc. C'est dangereux, et c'est contre-vendeur pour nous. Si on veut un aspect brillant en vernis, il faut faire un petit éclat du vernis.
D'accord. Non, mais on
pas là pour remplacer.
Oui. Non, mais et puis moi, je suis pas là pour mettre en défaut ton produit. Je sais que ça va claquer. Ah, yes, c'est vrai, on n'en parle plus. Moi, je ne suis pas au cache investigation. Hein. Moi, je suis là pour. Du fait que
tu ne ressens pas une
voilà. Du moment
que tu viens me présenter le produit, je suis content d'en faire profiter les gens, et je me mets à la place des bichons qui peuvent, en nous écoutant et en voyant la démonstration, se dire « Oh tiens, donc là aussi, une question que je t'ai pas posée tout à l'heure, mais c'est pareil, il y a une seule finition. C'est-à-dire que tu peux pas dire j'en commande un mat, un satin, un brillant. C'est tout le temps un peu satiné comme ça. Quoi. Là, moi, j'estime que c'est un peu satiné, là.
Ouais, c'est un peu satiné mat.
Donc, un peu velours, quoi.
Un peu velours. On a la possibilité de donner un aspect légèrement plus satiné.
D'accord.
Avec une petite astuce.
D'accord.
On a développé un produit qui est également une huile.
Ouais.
Ça s'appelle Métallisant Universel, qu'on peut déposer après 24 heures après l'application initiale.
D'accord.
Mais qui n'est pas sur la même technologie que l'huile de base. Cette huile se fixe et se lie à la molécule de bois.
D'accord.
Le fameux métallisant dont je parle va se déposer en petite micro-pellicule de surface supplémentaire.
D'accord.
Et nous donner un côté légèrement plus satiné.
D'accord.
C'est bien parce que j'ai ramené cette lame.
Ah oui, je vois, c'est le côté, c'est le truc du milieu.
C'est le truc qui est là, qui est un peu plus, qui est un peu plus satiné là aussi. On a ce côté un peu plus satiné.
On dirait presque que ça a été poli.
Ouais.
Je sais pas si vous allez voir quelque chose là. Si, peut-être là. Vous voyez là, il y a cette bande là qui a été satinée un peu. D'accord, donc ça c'est un produit. C'est une astuce, mais donc ça peut quand même résoudre. Oui, parce que là tu augmentes quand même l'indice de brillance.
Oui.
Donc là ça peut quand même résoudre un malentendu avec un client ou se dire mince, ou même nous en fabriquant quelque chose, se dire mince, j'aurais aimé quelque chose. Donc là t'as une solution.
Un peu plus satiné.
On t'appelle, tu nous dis bah écoute, je t'envoie ça, t'essayes, tu fais comme ça. Ok, d'accord. On continue
juste une petite chose. T'as un ciseau à bois.
Alors, un truc qui peut me faire rire. Oui, il y a un ciseau à bras, en plus il doit être complètement... c'est une pioche, comme on dit dans le métier.
Alors, l'accident de vie.
Ouais.
Quand on a une surface, un parquet, on a la petite rayure. Voilà, on fait une belle griffe.
D'accord.
Voilà, c'est...
Ouais, donc là, non, mais c'est pas du baratin, je la vois.
Hein. Donc là, et voilà, il a niqué tout le truc.
Donc là, nickel. Ok.
Sur le principe, on a un petit peu creusé le bois.
Ouais.
La plupart du temps, alors si on veut vraiment sortir la rayure, il faudrait repenser localement.
Oui.
Sauf que sur des grandes surfaces parquées, généralement, on peut faire des entretiens localement si jamais il y a une abrasion localisée de ce type-là. Sur un parquet de restaurant, par exemple. En fin de compte, on vient simplement remettre l'huile de la couleur utilisée au départ.
D'accord.
Localement, on va déborder sur les autres.
Ouais.
Sur des systèmes traditionnels, on aura souvent une petite auréole.
Oui, on va voir un peu l'estompage, quoi.
C'est ça. En fait, sur notre système de finition, voilà.
Ouais, ça se voit pas, quoi.
Là, si on regarde vraiment,
On voit un peu
trop la rayure.
Non, mais on va voir la rayure, mais on voit pas la reprise de produit.
On voit pas la reprise de produit. Le produit, techniquement, ne s'est fixé que
là où il est d'abord. Mais ça, là, tu nous montres ça, c'est merveilleux. Mais c'est pareil, on voit pas la reprise. Mais si on avait été un an et demi après, c'est pareil.
Presque.
Parce que du coup, le produit se serait peut-être terni un peu, on aurait eu peut-être une différence de...
Ce qui est important...
Alors, en tout cas, de toute façon, ça se verra moins que la rayure normale. Quoi.
Pour être très technique, le bois aura toujours pour effet de s'oxyder un petit peu.
Oui. Oui, comme quand tu peins un plafond blanc, tu repasses 2 ans après et tu refais une petite retouche, bah tu vois que ça parce que c'est pas la même couleur.
Ça se patine un peu.
Ouais. Mais là, enfin, c'est confluent. Hein.
Mais effectivement, la reprise locale se verra beaucoup moins. Et après, on a aussi la possibilité de repasser un peu partout aussi.
Ouais. Et puis moi, c'est pareil, je pense toujours à l'artisan, au menuisier, à l'agenceur qui va fabriquer un petit meuble et puis qui va charger ça dans son camion. Même s'il va mettre des couvertures, on essaye, moi j'ai toujours un peu des couvertures. Mais pour X raisons, je sais pas, quand il va le descendre, il y aura un mini accro, bah là, paf, impeccable.
Exactement.
On peut même, non, tu vas pas des mini trucs comme ça pour laisser au client.
Si.
Parce que tu sais, des fois, quand tu achètes certains meubles avec des teintes spéciales, ça peut être bien de dire au client, je vous le laisse, vous le gardez s'il y a... Enfin, c'est une idée, hein, moi, je dis ça.
C'est peut-être un peu...
Pour tous les artisans, c'est l'idée.
On colle une étiquette, Madame Durand, qui habite à...
Pour tout le monde, c'est l'idée. Il y a deux choses qui sont importantes. Préconiser les bons produits d'entretien interne, ouais. Et nettoyage, surtout. Alors, pas confondre nettoyage et entretien. Bon, vraiment, le produit de nettoyage, parce que les gens, ils vont avoir quoi? Des produits ménagers classiques, du dégraissant carrelage.
Ouais.
Ils vont nettoyer à grande eau. Un morceau de bois, ils n'aiment pas trop.
Ouais.
Donc, mais en règle, ça va neutre, en fait.
Ouais.
Pour nettoyer les surfaces.
Et ça va noir, peut-être?
Non, pas trop. La plupart du temps, ça va noir.
Ouais.
Le problème de mettre du gras sur une surface qui ne demande pas être regraissée, c'est que
ça poisse.
Ouais. Et après, quand on va marcher sur les zones, et ça peut arriver souvent, hein, les gens ont cette problématique-là, quand on remarche sur une zone qui est fraîchement nettoyée, on fait des traces de pas, on se demande pourquoi, parce qu'on a mis un certain gras.
Ok, très bien. Donc on a vu ça. Est-ce que tu as autre chose à te montrer rapidement?
Ouais, rapidement sur et c'est le principe par exemple sur un morceau de Douglas.
D'accord.
Ça, c'est vraiment gamme extérieure.
Bardage
classique, un morceau de bois. Souvent en fait on veut du coup garder la couleur du bois et le garder en acier bois brut.
D'accord.
Alors là je vais montrer sur une lame de terrasse.
Donc ça c'est sur quoi?
Sur un IP. Sur un IP, ça permet de montrer. Enfin,
c'est dense, hein,
c'est lourd. C'est très très lourd. Hein. Mais ça a une durabilité qui est très très bonne dans le temps. Là, effectivement, on est sur une surface déjà un peu, qui a déjà pris les UV, qui s'est un peu éclaircie.
D'accord.
On la nettoie, on met une couche de finition.
Pigmentée.
En extérieur, on fait pas la
même couleur. Ça, c'est finition pigmentée.
Ça, c'est finition pigmentée.
C'est pas une incolore. D'accord. Donc, finition pigmentée, ça, c'est le côté brut, neutre.
Oui.
Là, il n'y a rien eu. Et ça, c'est quoi? C'est...
Ça a passé 6-8 mois dehors.
D'accord, ok. Sans jamais traiter ou...
Sans jamais avoir traité. D'ailleurs, il y a quelques taches d'eau.
D'accord.
Du coup, on va la nettoyer pour enlever toutes les taches d'eau. Et ensuite, on va mettre une couche de finition, tout simplement.
Putain, ça, c'est génial.
Je okay. Montre là...
Attends, regarde, je vais filmer un peu plus près.
Oui. C'est le principe pour garder l'aspect bois brut.
D'un D'accord.
Ce qu'on fait à 90% du temps en extérieur, c'est de garder l'aspect bois brut.
Bah après, ce qu'il y a, c'est que souvent les gens mettent de l'incolore, mais ça, c'est vrai que c'est mieux, quoi.
L'astuce, c'est d'avoir le produit pigmenté de la couleur du bois.
D'accord. Donc là, pareil, on te contacte, on te dit j'ai du merisier, j'ai du machin, tu trouves. Ah oui, c'est carrément. Alors, le carrément crème.
Il est crème sur du Douglas légèrement rosé, parce que le Douglas,
ça se fait un peu légèrement, assez un peu rose.
Et en fait, quand tu veux l'appliquer sur ce morceau de bois. Donc je vais appliquer. Alors bien entendu, vous pourrez voir aussi les vidéos. Je vais laisser la partie vraiment brute, comme ça on va faire la différence entre les deux. Il y a des petites vidéos qui existent aussi sur les tutoriels de mise en œuvre en rénovation de bardage, de terrasse.
Ouais.
Donc là pareil, on va appliquer. Alors, sur du bardage, et quand on travaille en rénovation de terrasse, là on va travailler au pinceau.
D'accord.
On tirera le produit au maximum avec des pinceaux en fibre dure. Pour tirer le produit au maximum et on fera une petite égalisation à l'éponge.
Ok.
Tout simplement. L'éponge, en fait, plus que le chiffon,
ouais.
Il ne va pas m'imbiber le produit.
D'accord.
Le problème du chiffon, c'est qu'il absorbe et ne restitue pas.
Donc,
voilà. Là, je fais ma petite égalisation, comme j'ai fait tout à l'heure,
ouais.
Sans insister plus que ça.
Et là, pareil, t'es sec. Oh putain, c'est génial.
Là, j'ai le bois brut.
Ouais.
Et j'ai le bois.
Très bien, on voit qu'il n'y a pas de différence. Non, mais c'est incroyable. Ça, c'est vraiment génial.
Donc, quand on a une terrasse en Douglas ou un bardage en Douglas, plutôt que de mettre un color, on va mettre un pigmenté pour me stabiliser la couleur du
bois. Et là, par exemple, j'ai une terrasse dehors en Douglas. Je passe ça sur toutes les lames, au sol, etc. À la limite, avec ton produit, là, tu disais. Ça, tu me garantis la teinte combien de temps? Je veux dire, ça va pas griser au bout de 8 mois.
Non. Alors, ce qui se passe, plus le bois est dur, plus le bois est dense, c'est mieux, ça tient. Quand on travaille, ce qui est important, et on en parlait toujours, c'est la préparation du support.
Mmh.
Il faut toujours que la fibre du bois soit ouverte.
Donc, pas plus de ponçage de 120.
Exactement. Et derrière, si par exemple un bois a déjà passé un petit peu de temps dehors, d'ailleurs sur une terrasse c'est pas gênant, on peut laisser un bois 2, 3, 4, 5 mois dehors prendre les UV, notamment sur les bois exotiques qui souffrent, qui se déglacent par eux-mêmes. On viendra appliquer le produit de finition de la couleur choisie, on nettoie au départ. D'accord. Toujours pour enlever l'encrassement. Quand un bois a passé 3 mois dehors, il est encrassé. Même si visuellement on le voit pas, il a pris... On garde une voiture dehors.
Ouais, c'est... non, mais c'est sûr, ouais. C'est sûr.
Donc, on la nettoie et ensuite on va passer le produit de finition. Si on fait ce protocole-là, sur une terrasse en IP par exemple, on a rarement des gens qui reviennent dessus avant 2 ans.
Ok.
Sur un bardage, on préconise nous un entretien à peu près à 5 ans.
Après, tout dépend aussi d'exposition. Ouais, avec une exposition classique, par front de mer par exemple, front de mer.
Oui, à milieu salin,
tout ça. Si on peut anticiper, on sera peut-être à 4 ans.
Ok.
Mais en moyenne, c'est ça. Gros avantage, c'est que l'entretien est fait sans pompe salée.
Ah oui, donc tu remets directement dessus.
Exactement.
Tu nettoies peut-être un...
Nettoie, éventuellement passe un coup de jet.
D'accord.
Éventuellement avec un peu de shampoing aussi.
Pas de Karcher.
Évitez le Karcher parce que... Hein. Alors Karcher, oui, mais en restant à 1 mètre de la surface.
Ouais, d'accord. Oui, c'est au jet d'eau et puis peut-être un coup de balai rose et puis terminé.
C'est ça. Souvent, il peut y avoir des petits points, même de moisissure de surface. Ouais, ouais. Il y a des arbres autour.
Un peu de mousse.
Un peu de mousse. S'il y a des surfaces qui sont un peu plus encrassées, on frotte un peu la brosse à fond, c'est propre, et on remet l'huile dessus.
Oui, puis il y a même une petite odeur pas désagréable
sur l'huile de lin.
C'est pas mal. J'ai une question. Parce que j'aime bien, moi, tu sais, je suis un peu...
Il faut...
Pas chiant, mais je suis...
Exigeant.
Exigeant, je pense. Psychorigide. J'ai une question. J'ai trouvé merveilleux tout à l'heure ce que tu nous as montré. Donc, c'est-à-dire que tu peux faire des prises. Admettons que là, je te lance un défi. Je te dis, j'ai vu que dans ta gamme, t'avais du rouge, t'avais du bleu. Là, tu peux reverser du rouge, du bleu, teinter, les deux vont pas se mélanger. T'auras pas de problème, t'auras pas de nuance, t'auras pas de tâche.
Ouais, faut.
Putain. Alors... Non, parce que moi, en fait, si tu veux, c'était un petit peu, tu sais, l'esprit de l'International Maker Central qu'on a fait avec Olivier. C'est les makers. Tu sais, les makers, ils ont un peu un grain. Je te donne un exemple, parce que par exemple, je me dis, imagine que là, j'ai cet IP. Vous me piquerez pas l'idée dans les vidéos, le premier que je vois faire ça avant moi, je dépose un brevet officiel. Mais je te donne un exemple. J'ai une table.
Oui, d'accord.
Magnifique, en noyer, bien foncé, etc. Ou alors je fais une terrasse, un truc comme ça. Je prends mon plotter de découpe et j'y découpe un magnifique logo. D'accord. Je viens coller l'adhésif sur la table. Je coule du rubio couleur noyée partout, nickel. J'essuie le surplus tout. J'enlève mon pochoir. Je remets par-dessus. Donc il y a un endroit, tout l'endroit où il y a le pochoir, ça ne sera pas teinté, il n'y aura pas les rubio. Et j'aurai mon magnifique logo. Je mets du bleu, du rouge, du ce que tu veux par-dessus, même si ça déborde sur celui qui a déjà été fait. Tu viens là ?
Je mets un petit bémol quand même.
D'accord.
Je mets un petit bémol quand même parce que là, je vais te montrer.
D'accord.
Et on va le faire. Et on va le faire. On va le faire.
Attends que je filme.
Et on va le faire.
Parce que tu sais, nous, on est des esprits dérangés qui ne faisons pas comme tout le monde. Donc j'aime bien.
En fait, c'est bon ?
Ouais, ouais, on voit. On
là,
voit.
Voilà. Là, je vais mettre par exemple du rouge.
D'accord. Donc là, tu l'as. En plus, on voit parfaitement que là, tu l'as mis sur le produit que tu avais déjà
fait. Sur le produit que j'ai déjà fait. Si je l'enlève. Alors là, il est fraîchement appliqué.
Ouais.
Tu vois en fin de compte qui prend. Et c'est pour ça. Et c'est là le bémol.
Je vais pas le montrer tout de suite.
Ouais. Si je fais là fraîchement appliqué, les deux huiles se mélangent un petit peu.
D'accord. Par contre, si on avait attendu plus longtemps.
Si on avait attendu, j'aurais moins le phénomène.
Mais
c'est pas déconnant.
Ouais,
parce que ce produit là rouge. Par exemple, appliqué sur le bois brut.
D'accord.
Voilà ce que ça donne. On a toujours mes petits bouts de mousse.
Ouais.
Voilà, concrètement ce que ça donne comme.
Ah ouais, c'est chouette, j'adore ce couleur là en plus.
Voilà. Voilà ce que ça donne.
Donc là, appliqué sur une zone
ouais,
que j'ai déjà traité, le produit du coup ne rentre plus.
D'accord.
Se mélange un petit peu, le pigment s'est un tout petit peu mélangé. Donc j'espère.
Oui, mais après c'est pareil, je pense.
Les yeux plus secs.
Voilà.
Les gens qui nous regardent sont pas bêtes non plus. Ils ont très bien vu qu'on a appliqué la première couche il y a quelques minutes et que
que peut-être que si tu avais fait le test sur quelque chose qu'on avait fait la veille, et encore, moi je trouve que ça a pas bien imbibé, hein.
Et encore, si je, frotte, ouais, si je frotte un peu plus.
Non, mais là c'est pas déconnant. Hein. Et puis on est passé, on a exagéré, on a mis du rouge.
Hein. On a mis du rouge.
Non, non, mais là.
Et ça permet de montrer un peu le principe.
Et ça permet de montrer le principe.
Parce que le produit, une fois qu'il est imbibé, n'absorbe plus.
D'accord.
Une deuxième couche.
Par contre, là, donc si j'avais fait ça sur quelque chose comme ça, que j'avais bien attendu peut-être 30, 40 heures, 3, 4 jours,
ouais.
Pour être sûr, pas me foirer, je pense qu'on n'aurait pas de soucis.
On aura moins.
Moins de soucis.
Il y aura moins de soucis.
D'accord.
Mais effectivement,
il faut faire des essais.
Ça reste de l'artistique.
Bon, nous, on fera les essais. Ok. Bon, bah écoute, impec. On a fait le tour. T'as combien de coloris ?
Alors, sur la gamme parquet, plus de 40.
D'accord.
On a une gamme qui s'appelle Easy Déco. On va avoir une vingtaine de couleurs aussi.
D'accord.
Une vingtaine de couleurs extérieures.
Là, on était sur des gammes parquet ou...
Là, on est sur la gamme extérieure.
D'accord.
Et là, on est sur une gamme Easy Déco.
D'accord, ok.
Qui change rien, encore une fois, dans la technologie sera la même, c'est juste une question de pigment.
D'accord, ok. Donc ça, c'est tes nuanciers, il faudra que tu m'en laisses, peut-être des nuanciers, ouais. Tu m'en envoies, tu m'arrives
à envoyer. Parce que celui-là, il a un peu vécu.
Ouais, ouais.
Il a un peu traîné dans ma voiture.
Et là, je vois
un peu mal mené.
T'as carrément, t'as des bleus, des...
Et après, il existe des petites mallettes comme ça.
Ouais.
Beaucoup pour les artisans.
Voilà,
ce type de mallette.
D'accord.
Qui permet en fin de compte de faire ses propres essais d'une façon autonome.
Donc, ça c'est quoi ? Ça c'est l'artisan qui te contacte, il dit je veux une mallette, tu lui dis ça coûte tant.
C'est une mallette avec les principales couleurs dedans qui permet de faire quelques tests, quelques essais et de, surtout de valider en fin de compte les couleurs auprès de ses clients.
Ah oui, ça c'est dans la mallette là, les
ça c'est dans la mallette, ouais. Des petites éponges. Alors, elle a un peu vécu déjà.
Oui, mallette. Oui, mais enfin, c'est ta mallette de démonstration.
Mais sur le principe, c'est ça, il y a des petites fioles testées. Qui permet en fin de compte de valider les couleurs.
Tu peux passer ça sur un bois brossé ?
Oui.
Tu sais, c'est la mode maintenant, on y passe, on a des grosses brosses, t'as pas de soucis.
D'ailleurs, bon, là on est sur un léger brossé par exemple.
Ouais.
Un très léger brossé, je crois que ça c'est un peu structuré aussi.
D'accord.
En parquet, on travaille énormément sur du structurel. D'ailleurs, ça met, notamment sur le chêne, ça met vraiment en valeur le caractère du bois.
Bon, bah écoute, moi je trouve génial. Génial.
J'ai un produit hors gamme que je peux parler éventuellement.
Eh ben, si tu veux, mais pour finir.
Pour finir.
Parce que là, déjà, à ce moment de la vidéo, sur la radio, c'est pas pareil, mais à ce moment de la vidéo, on aura déjà plus que les passionnés, tous les autres, ils sont déjà partis en vacances.
Pour enlever l'étape de tanin, ça te parle ?
Oui.
Voilà. En fait, on a développé un produit. Alors. Très, très régulièrement, quand on parle de tâches de tanin en menuiserie, ça parle un peu à tous les artisans,
ouais.
Qui ont voilà, un morceau de bois, un morceau de chêne au fond de l'atelier qui a un peu pris.
Qui a un peu pris l'eau, qui a une auréole, qui a
un parquet. Quand il y a eu un pot de fleurs qui a été déposé sur le parquet, la belle auréole d'eau, la belle auréole marron qui est apparue.
Qui est inenlevable, même au ponçage, où tout fait flic, enfin bref.
Alors là, je vais simuler, parce que j'ai pas de bois taché avec le tanin, mais je vais simuler en fin de compte la tâche de tanin.
D'accord.
Avec un produit qu'on a aussi en gamme,
d'accord.
Qui est un vieillisseur à bois.
D'accord.
Qui réagit justement avec le tanin du chêne.
Donc toi, t'as un produit pour vieillir du bois.
Oui.
Si demain j'ai du chêne et que ma cliente me dit, oh, c'est trop neuf. Tu mets ça. Oh putain! Ah ouais, d'accord!
Oh mon dieu!
Mais c'est dingue! Ah oui, donc là carrément tu le grises carrément.
Ouais, je le grise. Alors là, faut juste laisser sécher.
Là par contre, c'est pas pareil, faut attendre un peu, faut laisser un peu sécher.
Ouais. Là, je te montre le vieillisseur.
D'accord.
Et ensuite, je te montrerai comment enlever l'effet du vieillisseur.
Parce que t'as un produit pour enlever l'effet du vieillisseur.
Pour enlever la tache de tanin, en fait. Pour enlever le tanin. Là, il commence à sécher.
D'accord. Donc ça, on a bien compris, c'était un peu plus long à sécher, mais enfin, un peu plus long. Quand on a l'habitude de bosser avec l'huile de lin par un jour, là, on part en quoi ? En minutes, hein ?
Ouais, alors ce produit-là,
même en heure,
au pire, va sécher très rapidement, visuellement, ouais. Au toucher, etc.
Par contre, à cœur, va falloir attendre un peu plus.
Voilà, là, il faudra attendre un petit peu plus, idéalement au moins une journée, et de mettre un produit de finition derrière.
Ça, c'est un produit qui... Ah, d'accord, oui, par contre, il est compatible avec ta gamme.
Oui.
Derrière, là, si je veux mettre n'importe quoi, je mets n'importe quoi.
Ce qui marche, d'ailleurs, c'est ce qu'il y a pour donner des essais comme ça.
Et après, là, tu mets quoi ? Un incolore
Souvent, un léger blanchi. Parce que l'incolore donnera toujours ce côté un peu jaune.
Ouais.
Si j'ai un vieillisseur gris, je mets soit un gris, soit un léger blanchi pour donner des aspects esthétiques très jaunes.
D'accord.
Ce qu'on fait beaucoup en parking. C'est un aspect. L'objectif aussi de ça, c'est de te montrer l'effet inverse.
Ouais.
Le contre-effet tamique.
Mais là, ce qui est intéressant déjà, c'est le côté vieillissement, quoi.
Ouais. Ça, c'est des petites astuces. Alors, ça existe ça existe depuis longtemps, le principe d'ammoniac, par exemple.
Ouais, voilà.
Mais ça, ce sont des vieillisseurs sans ammoniac. Donc, tu
vois. Oui, parce que.
Il y a très, très peu de.
Ouais.
Contrairement à des produits.
Qui... Ouais, quand on était en menuiserie, quand on décape à l'alcali et tout, c'est infernal, hein. Faut tout ouvrir, faut pas avoir passé le masque avec les recycleurs d'air.
Je sais même plus si c'est même autorisé.
Alors, on faisait ça avant.
Là, j'ai fait réagir le talent du chef.
D'accord.
En fait, on a développé un produit.
D'accord.
Qui, au départ, on est à la boîte chimie. Donc, on a fait travailler nos ingénieurs chimistes.
D'accord.
Pour justement arriver à solliciter une problématique de talent du chêne. Typiquement, voilà, l'auréole d'eau qui a stagné, etc., très longtemps. En fait, ce produit-là peut être utilisé de manière soit en curatif, s'il y a une tache de tanin, soit en préventif, typiquement pour un plan de travail de cuisine, par exemple.
D'accord.
Pour inhiber totalement un tanin.
D'accord.
Alors, attention, l'effet.
Attends, l'effet, c'est quoi? C'est Harry Potter.
Harry Potter, c'est...
C'est bon.
J'ai ma baguette, elle est là.
Voilà.
D'accord. Et du coup, en fait, quand on va mettre ce produit-là sur le bois, en fait, là, plutôt que de bloquer le tanin, en fait, je l'imite totalement. Donc du coup, ça me permet en fait de retrouver mon bois brut.
Ouais, mais là, ça, c'était... T'as mis ça sur ton produit ?
Sur une tache de tanin.
C'est pareil.
C'est pareil. Sans penser, on va enlever totalement la tache de tanin.
Ok, stop ! On change la batterie. Donc, on en était donc au tanin, donc ouais, on voit bien que là, et là c'est pareil, là, je veux dire, on n'a pas mis de gants, rien. Hein.
Non, alors, attention, ça reste un produit, c'est une solution technique,
d'accord.
Il faut pas...
Oui, il faut pas prendre une bassine dedans et mettre les mains dedans pendant que c'est ça. C'est avec ce genre de produit, un peu rien, il faut faire plus attention, mais pour le rubio, il n'y a aucun problème, tu peux bosser,
on a la norme jouée sur nos produits de finition.
Ah ouais. Donc je peux faire des jeux pour mes gamins. Ça quand même assez le machouille.
On a toutes les validations, les certifications par les laboratoires. Pas de solvant, etc.
Regarde-moi ça. La goutte descend. Mais on peut faire des trucs artistiques. Tu vois quoi là? Un papillon, un escargot? S'il y a des psychologues.
Allonge-toi.
Ok, bon bah écoute, ça je suis... Moi, de toute façon, par rapport à ça, je suis amplement convaincu. Pour finir, tu voulais nous parler juste vite fait d'une autre petite application vite fait que vous avez.
Alors, je parle toujours, moi, d'adapter la méthode d'application en fonction de la taille de surface.
D'accord.
Là, on a vu des applications sur des petites surfaces avec des petits bouts de mousse d'éponge.
Ouais, parce que c'était des tests.
Parce que c'est des tests sur des petites surfaces. Ça va bien, même pour du meuble, hein, ouais. On peut le faire à l'éponge. Après, quand on a des grosses surfaces, type panneaux d'agencement, etc., on peut mécaniser au maximum l'application.
D'accord.
Il existe des disques en mousse. En diamètre 150.
D'accord, auto-agrippant.
Auto-agrippant.
Donc on met ça derrière sa ponceuse sur son truc de ponceuse.
Ou des petits disques qui sont en fait les disques de lustrage de ponceuse, de monobrosse.
D'accord.
Qu'on utilise traditionnellement sur parquet en diamètre 400.
D'accord.
Ça existe en diamètre 150.
D'accord.
Qui se scratche aussi sur la ponceuse. Et plutôt que de frotter à la main, en fin de compte, c'est la machine avec son mouvement rotatif qui vient nous appliquer le produit et nous le lustrer, l'essuyer.
Tout ça. D'accord. Ok, donc ça aussi, ça c'est des choses que vous vendez.
Ouais.
Donc ça, soit le menuisier a l'habitude, lui, de travailler avec une marque, etc., il se cherche chez son distributeur, et sinon vous avez une offre complète avec même ses pattes. Et là, je vois que c'est marqué bleu parce que t'as plusieurs couleurs, ou parce que monsieur juste vous avez marqué bleu parce que t'es bleu, parce que bleu.
D'accord, ok.
Non, mais t'aurais pu me dire, ah oui, parce que le bleu c'est pour ça, on en a un rouge, c'est pour autre chose.
Ok, les pattes là, en mousse, sont très utilisées sur des panneaux type médium bachromate. Sur du bois, on va beaucoup utiliser le disque en nylon qui... Alors, la particularité des produits à base d'huile,
ouais.
Je ne sais pas si tu la connais, c'est le phénomène d'auto... inhibition d'auto-inflammabilité des huiles.
Oui, par exemple, quand tu fais huile de lin, terre et dentine et que tu mets tout ton chiffon, t'as intérêt à le tremper dans la flotte, tout.
Enfin, c'est pas la terre et dentine qui pose problème.
C'est l'huile de lin. C'est l'huile parce qu'elle crée un échauffement auto et ça s'enflamme.
Ça crée une fermentation, une oxydation.
D'accord.
Du coup, un chiffon, une éponge imbibée d'huile, par manque d'air, fermente, s'oxyde et ça crée un échauffement. Donc si tu le jettes dans du bois, ça peut créer un point de flamme.
D'accord.
Très très attention à ça. Tous les consommables, les chiffons, les éponges, les mouiller avant de les jeter, ça c'est très très important.
Nous on le faisait déjà vraiment avec l'huile de lin, mais c'est vrai que oui, là faut faire pareil.
C'est de l'huile de lin.
Ok.
C'est de l'huile de lin. Donc on a effectivement ce phénomène identique. Donc c'est important d'avoir ce point d'attention aussi. C'est pas systématique,
ouais.
Mais il vaut mieux toujours prévenir que guérir.
Anthony, j'ai une autre mini-question qui est bien. Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de médium, etc., est-ce que ça me parle ?
Ouais.
Par contre, tout ce que je vois, c'est quand même des produits qui sont destinés à mettre en valeur le bois, ce qui est très bien, puisqu'on devine le veinage à travers, etc. Mais est-ce que tu as, par exemple, pour un médium, un produit au pacifiant, quoi, qui couvre, ou parce que comment ça se passe, du coup, quand tu le mets sur du médium ?
On a l'aspect médium teinté. On garde la structure du médium à part.
Donc, on voit quand même la structure du médium, c'est-à-dire que ça va pas faire comme une peinture, quoi.
C'est ça. Si on veut un aspect laqué,
ouais,
faut mettre la laque.
D'accord. Mais par contre, ça donne quoi sur un médium
T'as pas beaucoup de médium.
Bah, j'en ai plein du médium. Je sais pas. Attends, je vais aller essayer de trouver ça. Ok, donc j'ai trouvé un mini bout de médium. Donc tu me bousilles pas la planche.
Non. Je vais te faire juste le petit.
Ok.
Le petit point qui est là. Alors, la particularité d'application sur le médium.
D'accord.
Contrairement à du bois traditionnel, c'est pas que du bois.
Ouais.
Donc très important aussi, bah, les traces de rayures, etc. Il faut les sortir.
Donc, finition
idéale 180.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Là, par contre, plus de 120. Quoi.
Dépoussiérage, alors là, je le fais juste comme ça.
Ouais.
Alors, soufflette.
Soufflette,
pas d'eau, pas de préparateur chez nous.
Mmh.
Le préparateur, la fameuse lingette humide,
c'est pour le bois.
Ouais.
Parce que là, en plus, c'est sur le médium, ça va avoir tendance. Là, c'est du HDF, mais même. Quand je vais fermer la porte. Là, alors.
Après, l'astuce aussi. Donc, du coup, toujours utiliser nos fameux disques en mousse.
Ok.
Sur lesquels on va mettre un peu d'huile.
D'accord.
Contrairement au bois, on évite de verser directement sur la surface.
D'accord.
Encore une fois, pas que du bois, il y a une petite absorption un petit peu plus importante sur le MDF.
D'accord. Ce sera la même chose sur le valchromate.
Ce sera la même chose sur le valchromate.
D'accord.
L'application est valable pour les deux.
D'accord.
Derrière, on va appliquer sur la surface. Alors là, c'est une chute qui n'est pas foncée.
Ouais.
Pas du tout. Mais l'aspect, on va l'avoir assez facilement.
Donc, on voit qu'il pompe direct.
Il pompe effectivement un peu plus.
Ouais.
De la même façon, on va faire notre petite égalisation pour enlever toute trace d'excédent de produit.
D'accord.
On va égaliser. Et voilà l'aspect qu'on obtient.
D'accord.
Voilà.
Ok. Donc ça peut être vraiment peut-être pour des applications quand même spéciales. Parce que moi, par exemple, je me vois pas. Enfin, là, je vois que c'est concluant, c'est extraordinaire. Par contre, moi, je me vois pas. Je sais pas trop quels usages je pourrais faire teinter du médium comme ça. Autant le valchromate pour rehausser,
pour éviter qu'il tâche, en fait. Hein.
Ouais. Parce que là, tu aurais pu mettre du rouge, du bleu, du vert, c'était tout pareil.
Oui.
Ça allait teinter rouge, bleu, vert.
Exactement.
Mais par contre, ah oui, on voit quand même derrière l'aspect un peu.
L'aspect médium.
Mmh.
L'aspect structure médium. Ça se fait de l'aspect médium teinté. C'est très compliqué à faire un teinté en vernis, par exemple.
Ouais.
Mais on y arrive en une seule couche.
Ouais.
Voilà, c'est l'intérêt. Alors, pour faire de l'aspect décoratif, souvent, on a déjà fait des présentoirs dans les magasins.
Oui, du PLV, des trucs comme ça. D'accord. Et là, c'est pareil, donc ça le protège quand même pareil.
Ça le protège pareil.
D'accord.
Ça l'imperméabilise. Alors, bien entendu, une huile, et encore une fois, on ne transforme pas le support en carrelage.
Ouais.
Donc, il y a quand même les sollicitations extrêmes où l'accident de vie peut arriver. On a une solution qui est quand même simple à réparer, éventuellement, si se passe quoi que ce soit, mais tout système de finition a une certaine microporosité toujours. Mmh.
Bon, enfin, normalement, si on en fait, on va pas faire l'exemple ici, mais si on prenait deux bouts de 50 cm par 50 de médium, un avec passé avec tout ton produit et l'autre brut, si on renverse un verre d'eau sur l'un et un verre d'eau sur l'autre, toi, normalement, si on met un coup d'éponge vite fait, y a pas de souci.
T'as un verre d'eau ?
Non, j'ai pas de verre d'eau.
Mais effectivement,
c'est là, il n'est peut-être pas assez sec en plus.
C'est l'astuce qu'on peut montrer justement pour.
T'as pas fait d'eau dans ta bouteille ?
J'ai une bouteille, mais voilà, c'est parfait. Mais là, on l'a fait tout de suite. Mais verse un peu d'eau là sur le.
Attends, je vais voir si on file bien.
Ou encore mieux sur le morceau de bois qu'on a fait un peu plus tôt.
Ouais.
Voilà. Si tu mets de l'eau dessus,
on va mettre un bouchon parce qu'après.
Comme ça, après, on vous montrera.
C'est moi qui nettoie.
Ouais. Voilà. D'accord, on voit exactement l'effet imperméabilisant.
Attends, je vais zoomer un peu.
Ouais. Et ensuite, je mettrai la planche de l'autre côté. Donc là, on a ce côté
imperméabilisant. On voit que l'eau ruisselle dessus. Et
si je mets l'eau. Je vais le faire comme ça, mais je ne vais pas trop.
Vas-y, chantouille.
Si je mets l'eau sur le support brut, en fait, on voit là que le support, en fait, il absorbe l'eau. Et du coup, j'ai une tache.
Ouais.
Donc,
ça n'a rien à voir
que
ah, ouais.
Que j'ai pas là.
Ok.
Donc ça, c'est l'objectif. Alors, c'est d'imperméabiliser le support. Alors, bien entendu, si j'ai du gras ou du vin qui stagne pendant 3 jours dessus,
oui.
Au bout d'un moment,
mais ça, c'est
en faire une tâche.
Mais ouais.
C'est réparable.
D'accord.
Donc, allons.
Ok. Juste pour. De toute façon, c'est tout bon. Donc, juste pour finir, en toute transparence, moi je trouve ça vraiment nickel. Je suis content que tu sois venu me voir. Et vraiment, en toute transparence, pour tous les bichons qui nous regardent et qui nous écoutent, ce qu'on a fait là, c'était pas prévu. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas passé le coup de fil avant en se disant on filmera tout. Moi j'étais en train de faire l'électricité de mon atelier. Anthony m'avait appelé hier en me disant bah tiens je vais être dans le coin si tu veux je te présente le Rubio. Je lui dis bah ouais passe. Et du coup quand il a commencé à installer ses trucs j'ai dit attends on va sortir une caméra on va filmer. Tu m'as pas payé pour faire ça.
Je t'ai pas payé pour faire ça. Et tu m'as pas payé pour faire la caméra.
Donc si tu veux là c'était purement amical. Par contre, ouais, moi ça m'intéresserait d'avoir 2-3 petits trucs pour tester et puis pour en parler un peu plus au bichon. Après quand on aura l'atelier, pour faire 2-3 essais supplémentaires.
Ouais.
Voilà. Bon, écoutez, on a fait le tour. Comme d'habitude, dans la description, je vous mettrai tous les liens. Donc tu me laisseras les liens.
Oui.
Et puis, on va peut-être pas mettre ton numéro de téléphone, parce que là, sinon, t'es foutu. Mais par contre, on mettra les liens vers le site.
Oui. Et puis après, les gens, ils peuvent aussi faire des mails. Enfin, des fois, voilà. C'est pratique, quand on est en clientèle, en présentation, filmé YouTube, on peut effectivement difficilement répondre au téléphone.
Toi, tu te déplaces chez tous les artisans qui sont intéressés, mais de l'Est, de l'Ouest, de...
Alors moi, je m'occupe de la moitié de la France, partie Est.
Partie Est.
Et après, on a des très bons relais par nos distributeurs.
D'accord.
Qui ont des commerciaux, qui tournent auprès des artisans, et pour présenter le produit. Donc on a aussi, pareil, le listing de nos revendeurs qui est sur le site.
Ouais.
Revendeurs spécifiques, négoces bois, négoces de produits de finition, quincaillier. Qui distribue nos produits.
Vous êtes chez Foussier et tout, non?
Oui.
Ah, super, parce que j'ai eu bien Foussier. Bon.
Ouais, voilà.
On bosse pas mal avec Foussier. Foussier, ils sont un peu partenaires de l'émission et tout.
D'accord.
Et ils sont très bien, je trouve. Je dis pas ça parce qu'ils sont partenaires, mais
c'est parfait, c'est un bon partenaire pour nous.
Voilà, mais c'est vrai que je les adore, donc... Ok, bon bah écoutez, nous on espère que l'émission vous aura plu. Bon, c'était un peu du téléachat, mais on n'a rien à vendre. On vous met des liens dans la description. C'était vraiment amical et informatif. Et pour tous les bricoleurs, pour tous les passionnés, pour tous les artisans, les pros qui eux sont intéressés par le produit et aimeraient acheter le produit et aimeraient se le procurer, on vous met tous les liens dans la description. Comme ça, vous aurez tout. En attendant, soyez créatifs, faites de votre mieux, et si possible du bon boulot. À bientôt les bichons. Yeah.
Radio Bichon, le seul podcast qui réveille tes chantiers et te donne le goût de faire du bon boulot.